France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, le Grand Orient de France. Une émission proposée et présentée par Alexis Lacroix et Fabrice Milon. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce dimanche matin et j'ai le plaisir d'accueillir Christophe De Villers. Bonjour Christophe De Villers.
Le plaisir est partagé. Bonjour Fabrice Milon.
Christophe De Villers, vous êtes rédacteur en chef de la revue Humanisme. Vous allez nous parler de cette revue, vous allez nous la présenter. En quelques mots, en préambule peut-être, sur le site du Grand Orient de France, nous apprenons que cette revue est éditée par le Grand Orient de France. Quand on a la chance de feuilleter cette revue, on y découvre des titres intéressants, le service public, l'état utile, le sport sous influence, un hors-série d'ailleurs, paru en 2025, l'été 2025, séparé pour unir à l'occasion de la commémoration de la loi de 1905. Dans cette même revue qui côtoie quelques plumes fameuses, Xavier Pavy, Éric Anceau, Bruno Fulini, Cécile Révauger, Christophe De Villers, dites-nous, quelle est la ligne éditoriale de la revue Humanisme ?
Peut-on parler de ligne éditoriale d'une revue qui est intimement, consubstantiellement, liée au Grand Orient de France ? Peut-on parler d'une ligne éditoriale alors même que nous sommes une façon de parler au monde et de porter la voix du Grand Orient de France ? Notre ligne éditoriale, en réalité, c'est l'esprit du Grand Orient de France, c'est sa constitution, c'est son règlement général et ce sont ses pratiques depuis plusieurs décennies.
Alors, si on va un peu plus loin, toute la tradition intellectuelle du Grand Orient de France se retrouve dans la revue Humanisme ?
Bien sûr, en fonction des numéros, en fonction des auteurs, en fonction de la tonalité des dossiers qui sont choisis sur une année, on peut se retrouver avec des tendances différentes. Mais sur 2 à 3 ans, on aura balayé tout le spectre de notre activité maçonnique qui est bien entendu tournée fondamentalement vers la défense de la République.
Alors, allons au cœur de cette même revue. Vous avez parlé d'auteurs, j'en ai cité quelques-uns en début d'émission. Comment sélectionne-t-on les auteurs, les contributeurs d'une revue, en fait, adossé au Grand Orient de France ?
Bien entendu, il y a des auteurs traditionnels, voire des auteurs historiques. Certains écrivent depuis 40 ans dans Humanisme. Et ce ne sont pas les papiers les moins intéressants, parce qu'ils portent toute cette sève historique qu'on sent dans la rue Cadet et dans nos loges. Le comité éditorial d'Humanisme est réuni des francs-maçons.
D'accord, bien sûr.
Il réfléchit aux différents thèmes des dossiers qui vont être abordés sur une année. Et ensuite, il convient de trouver des contributeurs. Et sur l'ensemble de la revue, nous invitons des maçons et des non-maçons à parité. Environ 50% des contributeurs et des auteurs de Humanisme ne sont pas francs-maçons.
D'accord, ce n'est pas une revue en fait pour les francs-maçons, écrite par les francs-maçons.
Non, c'est une revue qui parle d'une manière de voir le monde en franc-maçon. Et on peut dire que souvent, des auteurs, des humanistes, voient le monde en franc-maçon, même sans faire partie de nos rangs.
Merci de cette précision, Christophe De Villers. Le grand maître du Grand Orient de France, Pierre Bersinoriti, a coutume de dire que le Grand Orient de France a deux jambes, une sociétale, une symbolique. Alors si je comprends bien, la revue Humanisme s'intéresse plutôt à cette jambe dite sociétale. De quelle manière peut-on imaginer en fait que cette revue influe ou joue en fait sur les enjeux contemporains ?
Influer ou jouer, je ne sais pas. Toujours est-il que pour nous, il s'agit d'une boussole à laquelle on peut se référer. On peut reprendre des écrits d'il y a 50 ans, 30 ans. La revue existe depuis 70 ans.
D'accord.
On peut prendre des écrits récents. On peut y lire des points de vue divergents. On a le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'on lit. Mais en tout cas, tout est une façon de se nourrir intellectuellement et de porter dans le temple, quand les francs-maçons y travaillent, et au-dehors du temple, quand ils sont engagés, les idées qui nous sont chères.
De se nourrir intellectuellement, vous dites Christophe De Villers, c'est intéressant. Est-ce à dire que dans la revue Humanisme, nous trouvons tous les enjeux sociétaux en fait actuels ? Est-ce que cette revue traite, alors au fil des années bien sûr, est-ce que cette revue traite de tous les enjeux les plus importants en fait que connaît aujourd'hui l'humanité ?
Vous me parliez de ligne éditoriale tout à l'heure, c'est peut-être là que se situe la possibilité d'une ligne et de ses évolutions. Je crois que le monde change tellement vite, les générations changent tellement vite qu'il faut que nous inventions, que nous trouvions une manière de grammaire nouvelle pour parler de la République aux plus jeunes. Et il faut que nous y intégrions les problématiques qui sont les leurs aujourd'hui. Alors on pense d'évidence à la question de l'égalité homme-femme qui n'a jamais été aussi prégnante. On pense aussi à la question de l'écologie, nous l'avons traitée. On pense à la question du genre et de la manière d'aborder le genre.
Ça aussi est traité, effectivement.
Ça ne veut pas dire que nous épousons les thèses de l'ère du temps et du monde du dehors. Ça veut dire que nous nous intéressons au sujet et à la manière dont les Français, mais dans le monde entier, les habitants de cette planète que nous partage, que nous avons en partage, la manière dont ils appréhendent ces nouveaux sujets et dont ils les vivent, il faut que nous ayons des propos là-dessus.
Vous mentionniez les enjeux républicains. Quels exemples vous pourriez nous donner, en fait, traités par la revue, en fait, sur ces derniers numéros, concernant les enjeux républicains et quelle plume, en fait, a pu écrire sur ce sujet?
Alors, bien entendu, la question de la laïcité étant essentielle dans les engagements du Grand Orient de France, on peut se poser la question de l'irruption ou de la ré-irruption du fait religieux dans l'espace public. Elle est due, évidemment, à la montée en puissance de l'islamisme, mais les autres religions ne sont pas en reste, puisque elles se regardent toutes, elles s'examinent toutes, elles s'observent. Et donc, voilà un sujet sur lequel il nous faut réfléchir en permanence pour ne pas être en décalage et pour parler d'une laïcité qui, évidemment, n'est pas une laïcité de combat ou de violence, qui est une laïcité qui inclut, une laïcité qui permet l'émancipation.
Voilà évidemment ce qu'on peut lire en fait, notamment l'orientation qu'on peut trouver dans la revue Humanisme. Je voudrais revenir, Christophe de Villers, à la revue elle-même. Comment imaginez-vous l'évolution de la revue dans un contexte de mutation, à la fois mutation des supports, mais aussi mutation technologique? Est-ce que cette revue qui existe en papier peut en quelque sorte concurrencer en fait ce qui existe aujourd'hui en termes de revues numériques, etc., etc.
Nous sommes une obédience maçonnique, nous sommes un ordre maçonnique avec ce que le mot appelle comme constance, comme stabilité. Et donc, il ne s'agit pas pour nous de rentrer en concurrence. Pour autant, nous sommes 55 000 dans l'obédience et nous parlons au monde entier puisque le Grand Orient de France est regardé de partout. Il est la sentinelle de la République, il est né au même moment que les Lumières et que la Révolution française.
Bien sûr.
Et donc, il faut que nous puissions intégrer ces évolutions. Donc, nous ne sommes pas en concurrence, mais nous voulons être lus. Être lus, ça signifie irrémédiablement passer sur le vecteur numérique. Et c'est ce que nous avons fait il y a 3 ans, en arrivant sur Kern, qui est l'interface...
Alors, voilà, je pense qu'il faut expliquer pour nos auditeurs, en fait, nos auditrices, ce qu'est Kern.
Kern.info, c'est un site internet qui est remarquable.
C'est
qui contient. C'est IRN.info qui contient la pensée du moment en matière de sciences sociales, de sciences humaines, de médecine, de droit. Et un certain nombre de revues d'idées sont sur Kern et peuvent être consultées sur Kern, soit dans leur ensemble, soit dans leur entier, soit article par article.
Cela veut dire que l'on peut retrouver l'intégralité de la revue Humanisme, du dernier numéro par exemple, sur Kern?
Le dernier numéro sort la semaine prochaine. Il y sera quelques jours après, mais en tout cas, jusqu'au numéro de février dernier, et depuis 2006, toutes les revues sont en ligne, elles sont payantes sur les 3 dernières années.
Merci Christophe. Par gourmandise, j'ai envie de vous entendre sur une autre revue, qui est la revue en fait La Chaîne d'Union, qui est peut-être la petite sœur de la revue Humanisme, je ne sais pas comment dire.
La Chaîne d'Union, c'est une revue qui est présente sur Kern.info également et qui récolte des chiffres très très importants de consultation. Et en réalité, quand on regarde ces deux revues, Humanisme et La Chaîne d'Union, on a les deux pieds du Grand Orient de France. Humanisme, qui est la revue sociale, politique, engagée.
Et symbolique.
Et Chaîne d'Union, qui parle des francs-maçons dans leur temple, des francs-maçons dans leur loge, des réflexions plutôt symboliques et philosophiques. Et ça plaît beaucoup, à tel point que la revue La Chaîne d'Union est lue autant que la revue Humanisme.
Mais ça veut dire que quand on est franc-maçon du Grand Orient de France ou d'une autre obédience, lire La Chaîne d'Union, c'est aussi travailler symboliquement, travailler les symboles, travailler les rituels.
Au sein de notre obédience, nous disons améliorer l'homme et améliorer la société. Il faut s'améliorer soi-même. On le fait en lisant La Chaîne d'Union, en réfléchissant sur les enjeux, les défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'individus. Et puis si on veut s'ouvrir au monde, s'ouvrir au sujet que nous avons en partage, à la sphère publique, à la sphère sociale, aux grandes évolutions, eh bien on peut lire Humanisme.
Vous avez évoqué, Christophe de Villers, le prochain numéro à paraître la semaine prochaine. Je vous demande quelques informations complémentaires, peut-être pour nous mettre l'eau à la bouche sur ce numéro à venir.
Il est passionnant, c'est le troisième opus d'une trilogie de dossiers que nous avons intitulé « Les fossoyeurs de l'universalisme ». Le premier était sorti en novembre, était consacré à l'antisémitisme. Le second, en février, était consacré au racisme. Et là, nous traitons de l'identitarisme. Nous traitons de l'identitarisme avec des plumes remarquables,
par exemple.
Là encore. Eh bien, le dossier est coordonné par Guillaume de Couzon, mais qui a réuni autour de lui le blogueur républicain Cincinnatus, dont on connaît la sagacité d'esprit et d'écrit. On retrouve également Nathalie Hennick. On retrouve Renaud Dely, Benjamin Morel.
Ah oui, effectivement. Vous avez rassemblé les plus grandes plumes, en fait, dans cette édition.
Exactement, pour réfléchir sur l'identitarisme sous toutes ses formes. Et sous toutes ses formes, c'est-à-dire sa forme politique, sa forme ethnologique, culturelle, mais aussi sa forme de genre. Et puis, Benjamin Morel fait une incursion dans l'ethno-régionalisme, qui est au fond un identitarisme, lui également.
Sûr, tout à fait. Ça veut dire que les numéros qui composent ce triptyque, le premier et le deuxième numéro, d'ailleurs, je vous invite à en parler aussi un petit peu, sont les numéros qu'on le retrouve possiblement sur Cairn.
On peut lire et faire l'acquisition des trois numéros dès que le troisième sera sorti sur Cairn. On peut bien sûr commander chez notre éditeur Conform Édition les numéros papier, mais on peut effectivement se référer à ces trois numéros et à cette trilogie.
Voilà, je veux bien qu'on revienne sur le premier numéro qui lui traitait
de l'antisémitisme.
De l'antisémitisme. Avec quel contributeur sur celui-ci?
Alors, des noms extrêmement connus également. Nous avions notamment Dominique Schnapper, Pascal Horry, Vincent Duclerc, qui est un des spécialistes de beaucoup de choses et de Dreyfus et de l'affaire Dreyfus. Mais nous avions également Pierre-André Taguieff, François Racheline, un penseur de la maison juive et de l'antisémitisme sous forme contraposée. Et ça crée un dossier qui est très, très instructif pour ne pas céder aux sirènes du moment.
On en finit avec le triptyque, avec le deuxième opus qui, lui, traitait...
Du racisme.
Du racisme. Pareil, avec quel contributeur?
Des contributeurs de qualité. Emmanuel Debono, qui est le rédacteur en chef de la revue de la LICRA, mais également Benoît Drouot et Florian Gulli, qui sont des penseurs du racisme. Bernard Guénaud, qui a travaillé sur la décolonisation.
Un triptyque, effectivement, à se procurer, soit effectivement par Cairn, soit directement, et c'est bien que vous l'ayez cité, Conform Édition. Christophe de Villers, merci infiniment d'avoir été des nôtres sur notre émission Divers aspects de la pensée contemporaine. Vous ne quittez pas de suite, Christophe Diller, car je vous propose un petit agenda quand même des événements en lien avec le Grand Orient de France. Alors, trois événements en fait assez majeurs. Alors, le 13 mai, une conférence publique tout à fait exceptionnelle, marquée par la présence d'un ancien Premier ministre, figurez-vous, Monsieur Bernard Cazeneuve. Il sera certainement question de convoquer les principes républicains à travers le regard, bien sûr, d'un témoin privilégié du débat public, Bernard Cazeneuve lui-même. Le Grand Orient de France ensuite annonce une soirée exceptionnelle le 28 mai. Alors, une soirée en fait de réenchantement de la politique pour peut-être réenchanter la société et pour très certainement réenchanter les cœurs. Le programme complet nous sera fourni par le Grand Orient de France. C'est le 28 mai 2026 à l'Hôtel Calais, toujours à Paris. Une autre date importante dans l'agenda du Grand Orient de France, la remise du prix du justement Grand Orient de France. Alors c'est ce même prix qui a été remis en 2024 à la si pertinente Sophia Aram, le prix du Grand Orient de France qui désigne, en fait, qui distingue les personnes en fait qui sont en lien bien sûr avec les valeurs du Grand Orient de France. Cette année, le prix sera remis le 24 juin, toujours à l'Hôtel Cadet. Et je termine, alors nous parlions avec une date précise, mais nous parlons de témoins privilégiés. Yael Braun-Pivet elle-même, État de droit, une conférence publique le 25 juin, précisément, à l'Hôtel Cadet. Une conférence publique à laquelle, bien sûr, participera le grand maître du Grand Orient de France. Christophe de Villers, je parlais à l'instant de Sophia Aram. Quand je pense à Sophia Aram, je pense à ces artistes, en fait, qui sont même pétris de valeurs républicaines, de défense de ces valeurs. Et je crois savoir que Philippe Torreton a lui-même été contributeur dans l'un des opus, en fait, du triptyque. Dites-moi.
Absolument. Il a écrit, non pas dans le dossier, mais en exergue. Nous l'avons mis en exergue parce qu'il a fait un texte magnifique qui s'appelle Dieu, dans lequel Il explique qu'il ne se reconnaît pas dans cette manière de vivre sa spiritualité aussi fondamentaliste et intégriste que celle qu'on connaît aujourd'hui. Et pour terminer sur l'idée que si Dieu voyait ça lui-même, il ne serait pas très à l'aise. Philippe Torreton est une voix aujourd'hui, c'est une voix dans son domaine, une voix
bien
du théâtre,
sûr,
mais
fait.
C'est aussi une voix de la laïcité de la République qu'il faut écouter.
Et je crois me souvenir que Philippe Torreton lui-même, d'ailleurs, était sur scène avec ce texte-là. C'est un texte qu'il a proposé, en fait, qu'il a joué.
Nous lui avons demandé reproduire le texte qu'il avait écrit pour une soirée de mobilisation organisée par l'association Unité Laïque au mois de décembre, qui visait à marquer, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure avec le hors-série d'humanisme, la célébration de l'anniversaire de la loi de 1905.
J'avais moi-même été invité à cette soirée qui était une fabuleuse soirée. Merci de ce petit rappel. Christophe Desvillers. C'était Divers aspects de la pensée contemporaine, une émission présentée par Fabrice Milon, avec à la réalisation Luc-Jean Reynaud et à la prise de son Marie-Claire Oumabadi.